Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme vous le savez, Canal Académie est la radio de l'Institut de France, qui selon le mot célèbre de Renan, est un lieu où tous les efforts de l'esprit humain sont comme liés en un faisceau. Ainsi, à l'Institut, les littéraires côtoient les scientifiques, et le fait n'est pas si banal, tant il est inscrit dans nos mentalités de vouloir opposer les uns et les autres. Souvenez-vous vos jeunes années sur les bancs de l'école, où à la maison, nous ne pouvions y échapper. Tel professeur nous déclarait littéraire ou scientifique, provoquant ainsi soit la consternation, soit la jubilation des uns ou des autres. Il fallait être l'un ou l'autre. Pis, une sombre rivalité opposait les clans ainsi constitués. C'est contre cette dichotomie ancienne et un petit peu navrante que s'élève notre invité de ce jour. Nous avons en effet la joie de recevoir dans nos studios Yves Quéret. Yves Quéret, bonjour, pardonnez-moi de vous définir ainsi, mais vous êtes quand même physicien, membre de l'Académie des sciences, mais vous avez pour autant toujours eu à cœur de jeter des ponts vers d'autres rives, vers d'autres disciplines, et vous avez même signé récemment un ouvrage en compagnie du linguiste Alain Bentolila, non pour vous confronter à lui, non pour débattre avec lui ou défendre tel ou tel aspect de votre discipline, mais plutôt pour affirmer de concert avec lui que décidément langue et science marchent ensemble au fil de l'histoire humaine. Pouvez-vous nous expliquer cela, tant cela va à l'encontre de nos certitudes les plus établies ?
Bonjour d'abord. Écoutez, vous avez dit ça excellemment. Je peux reprendre tout ce que vous disiez et l'amplifier peut-être en disant que c'est une catastrophe de constater qu'en effet, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de lycées et surtout dans beaucoup de familles, on met l'une contre l'autre la science et la langue. Et j'ajouterais même peut-être que très souvent, les filles dans les familles sont considérées, sont tenues pour littéraires et les garçons pour scientifiques. Je pense que ceci n'a aucun sens. Et je pense que plus fondamentalement, et je le pense évidemment avec Alain Bentolila, avec qui nous avons écrit ce petit livre, je pense que plus que cela, beaucoup plus que cela, la science et la langue sont sœurs jumelles, c'est-à-dire qu'elles sont nées en même temps. Plus, donc le lien entre langue et science est beaucoup plus fort même qu'entre d'autres disciplines. Il est essentiel, c'est un lien d'essence. Nous pourrons en parler tout à l'heure, mais je crois que si on essaye de reconstituer une histoire un petit peu stylisée, même très stylisée, une histoire de la langue, comment une langue a pu naître, eh bien on s'aperçoit que, je le répète, la science est née exactement en même temps, à la même minute.
Oui, pour illustrer, vous recourez à un procédé littéraire d'ailleurs, une sorte de parabole ou de petite fable décrivant l'un des premiers hommes, enfin en l'occurrence c'est une femme, mais peu importe, en prise avec son environnement et basculant d'un même mouvement, d'une même impulsion, à la fois dans la langue et la science. Pouvez-vous nous rappeler cette petite fable?
Oui, j'imagine en effet un être humain qui, j'aimerais penser que c'était une femme en effet, à cause de l'intuition que beaucoup de femmes ont plus que les hommes. En tout cas, peu importe. Cette femme ne parlait pas, il n'y avait pas de langage. Et elle poussait sans doute quelques grognements de surprise, de colère, de douleur ou de joie. Et un jour, voyant un objet, je peux imaginer que c'était un arbre par exemple, voilà qu'elle dit le mot « arbre ». Évidemment, elle ne le dit pas comme ça. C'était sans doute une espèce de grognement, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle dit le mot « arbre ». Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment. C'est probablement le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Elle crée évidemment le langage, parce qu'elle crée un substantif. Mais je dis qu'au même instant, elle crée la science. Parce que dire « arbre », nommer un objet de la nature, l'arbre, le nuage, le rocher, l'être, l'homme, peu importe, quelque chose de la nature, c'est évidemment créer la science. Parce que la science n'est rien d'autre qu'une tentative de mise en ordre de la nature. Et déjà, créer ce mot, arbre par exemple, c'est entrer de plein pied dans la science. Et c'est tellement entrer de plein pied dans la science que ça va très loin de créer un mot. Ça nous plonge, ça plongeait cette femme dès l'origine dans ces deux grandes provinces de la science que sont la synthèse et l'analyse. Parce que disant arbre, elle est géniale cette femme, parce que disant arbre, elle a compris ce que c'était qu'un ensemble. Elle a compris qu'il y avait un mot unique pour des objets aussi différents qu'un immense chêne et qu'un petit arbre rabougri, parce que tout simplement ils ont en commun d'avoir ce que nous appelons maintenant un tronc, du feuillage. Donc c'est génial d'avoir créé un mot comme le mot arbre. Et d'autre part, elle se prépare à l'analyse, parce qu'il faudra bien un jour qu'elle sache, parmi les arbres, dire l'olivier, le hêtre, le chêne, etc. Donc vous voyez, simplement par la création d'un mot, nous sommes en plein dans la science, et bien sûr dans le langage. Et ceci est tellement vrai que nous continuons chaque année en science, c'est un domaine de la science, ça s'appelle la taxonomie, nous continuons chaque année à créer chaque année des centaines de mots nouveaux, d'insectes, de roches, de molécules pharmaceutiques, etc., etc. Donc voilà, le langage est créé par le substantif et ça ne va plus s'arrêter. Parce que après le substantif, il va quand même falloir aller un petit peu plus loin. Je disais tout à l'heure qu'on décrit la nature en disant arbre, et que c'est une des fonctions de la science qui n'est après tout qu'un grand récit. Si d'ailleurs je dis que la science est un récit, je fais une parenthèse ici, si je dis que la science est un récit sur la nature, ce qu'elle est, eh bien je vois bien immédiatement son lien avec le langage, bien sûr. Je ferme cette parenthèse. Et je reviens à la création de ce mot, arbre, et je vois bien que viendra un peu plus tard, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son petit-fils ou sa petite-fille, mais viendra bien un jour la nécessité d'être un peu plus précis. Parce qu'il y a des arbres qui sont grands, il y a des arbres qui sont petits, donc je vais créer l'adjectif, qui est aussi une invention prodigieuse, qui va définir mieux l'objet dont je parle. Et déjà dire arbre grand ou arbre petit, c'est déjà progresser, évidemment dans le langage, mais évidemment dans la science. N'est-ce pas ? Je décris la nature de mieux en mieux. Je vais d'ailleurs, dans la lancée, sans doute créer un jour le comparatif, qui sera utile et qui, des milliers d'années plus tard, aboutira à la mesure, mais je n'en suis pas encore là. Et je vais dire arbre plus grand ou arbre plus petit qu'un autre. Vous voyez, je progresse là. Et puis, évidemment, viendra un moment où, au-delà des objets, il faudra désigner les actes. Parce que c'est ça notre vie. Ce sont des objets qui nous entourent et puis ce sont des actes que nous... C'est des actions que nous commettons. Donc je dors, je mange, je bois, je cours, courir. Voilà, donc je commence à créer une autre grande catégorie de mots qui sont les verbes. Et de la même façon, pour préciser ces actions que je fais, je vais créer l'adverbe, comme je créais l'adjectif tout à l'heure. Donc courir vite, courir lentement, etc. Courir plus vite que celui-ci. Donc vous voyez, voilà, nous progressons et nous avons maintenant tout un bagage de mots qui sont des substantifs, essentiellement des substantifs, des adjectifs, des verbes et des adverbes. Et alors, bien plus tard, viendra un moment, un autre moment fabuleux, je crois, de l'histoire de l'humanité, c'est celui où on commencera à créer des phrases. C'est-à-dire qu'il y aura parmi nos ancêtres quelques-uns qui commenceront à jouer avec ces mots et ces verbes et ces adjectifs, etc. Et dans une combinatoire pratiquement sans fin, nous voyons bien qu'avec quelques centaines de mots, nous allons pouvoir créer des milliers et des milliers de phrases. Et il y a eu sans doute quelqu'un qui, le premier, a constaté cette chose extraordinaire. C'est que dans ces milliers, ces millions de phrases que nous pouvons prononcer, il y en a de deux types. Pas du tout grammaticalement différentes. La grammaire est exactement la même, la syntaxe aussi, mais on comprend tout de suite qu'il y a deux types de phrases. Lorsque je dis, par exemple, je pars chasser le bison et reste bien à la grotte pour garder les mioches, je prononce une phrase qui est importante, elle est intéressante, mais je comprends bien qu'elle est intéressante et importante qu'ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est dans cette grotte, à 10 km de là, cette phrase n'a aucune importance, et après-demain, je l'aurai sans doute oubliée. Il y aura une autre phrase. Donc, nos phrases, et reconnaissons que, oublions le bison et la grotte, soyons ici aujourd'hui, c'est évidemment la même chose. La plupart de nos phrases sont de ce type. Elles ne sont pas inintéressantes, elles sont utiles, mais je répète, elles ont un statut momentané et local. Et puis, il y a d'autres phrases qui ont, je répète, la même structure, la même vertu grammaticale, qui sont radicalement différentes. C'est, par exemple, si je dis « lâcher », si je lâche, la pierre, elle tombe. je comprends bien que c'est une phrase très différente. Elle a la même grammaire, il y a un sujet, un verbe, il peut y avoir un complément. Et je sens bien que là, je suis dans l'éternité. Je suis dans, peut-être pas l'éternité, mais je suis dans le radical. Je suis dans, oui, dans l'éternel d'une certaine façon, en tout cas dans l'absolu. Je comprends que là, je peux parler d'une vérité. Parce que la pierre est toujours tombée. J'ai appris que par mon grand-père que déjà, autrefois, elle tombait. Je sais que dans la grotte voisine, à 10 km, dans la tribu voisine, elle tombe, etc., etc. Donc voilà que je suis dans une phrase très particulière, qui est une phrase absolue. Et cette phrase, c'est tout simplement une phrase de science. C'est comme ça que se bâtit la science, sur ces phrases particulières, dans l'immensité du nombre de phrases que nous pouvons prononcer, de phrases très particulières qui, au fond, touchent à une sorte de vérité du monde, une vérité de l'univers.
Parce qu'elles énoncent des lois.
Parce qu'elles énoncent ce que nous appelons des lois. Voilà, vous avez prononcé le mot qu'il faut, c'est-à-dire c'est une loi, c'est quelque chose à laquelle on doit obéir absolument. Et à la nature obéit. Ce sont, au fond, ces phrases décrivent des sortes de rails sur lesquels la nature fonctionne. Cette nature qui semble complètement chaotique, dont j'ai commencé à démêler le chaos en prononçant les mots, en créant les mots, mais c'était bien insuffisant. Voilà que tout d'un coup, j'avance d'un grand pas dans la description, dans ce récit sur la nature, en prononçant des phrases qui sont des lois. Ce sont les lois de la nature. Et pendant des millénaires et sans doute plus, la science ne sera rien d'autre que l'accumulation sur la grande étagère du savoir de ces phrases miraculeuses. C'est des phrases un petit peu miraculeuses. Le soleil se lève, le matin, le soleil se lève. Et ces phrases miraculeuses vont constituer l'essentiel de la science jusqu'à la Renaissance. Jusqu'à la Renaissance, la science ne sera rien d'autre que ça. On pourra dire tout à l'heure qu'il y a un petit événement assez important au moment de la Renaissance qui fait que nous allons peut-être quitter cette description très simple. Mais jusque-là, la science ne sera ni plus mais ni moins que l'accumulation de ces phrases un peu miraculeuses. Et alors, voilà que ces phrases vont m'autoriser à créer, dans mon langage, vous voyez, je ne sais pas trop si je suis dans la science ou dans le langage,
ce n'est pas un voisinage, c'est une gémellité pure.
Gémellité pure.
On ne peut pas les distinguer, non. L'élan est le même.
Comme disait Jeanne d'Arc, c'est tout un. et voilà que donc, ces phrases vont permettre, dans ma langue, conception scientifique du monde va me permettre de rebondir sur la langue et de créer ce temps absolument insensé qu'est le futur. Parce que jusque-là, si je peux dire, je n'ai utilisé que le présent, la pierre tombe, ou le passé, parce que mon grand-père m'a dit que la pierre tombait toujours, donc je peux dire la pierre tombait. Ça, c'est, je suis dans quelque chose que je peux soit voir immédiatement, c'est le présent, soit je peux en avoir une conscience directe par mes ancêtres, c'est le passé. Mais voilà que tout d'un coup, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a aucune symétrie dans notre langage entre le passé et le futur. Parce que je répète, le passé est passible d'une confrontation avec une vérité, tandis que le futur ne l'est pas du tout. Le futur m'est totalement inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer dans une minute, a fortiori dans un an. Absolument pas. Je ne sais rien du futur. Et voilà, tout d'un coup, que ces phrases un peu miraculeuses dont je parlais tout à l'heure me permettent de créer ce temps. Il y a eu sans doute un jour où on a créé ce temps miraculeux parce que je me dis au fond, mon grand-père m'a dit que les pierres tombaient, moi je les vois partout tomber, partout, dans toutes les autres tribus on me dit qu'elles tombent partout, toujours et partout. Donc je me mets à imaginer cette chose insensée, je répète, qui est le demain, le futur, et je crée ce temps, je répète, extraordinaire, qui est de dire « demain, la pierre tombera ». Ça, c'est une phrase qui est insensée, d'une certaine façon, je répète, mais elle est évidemment au cœur même de notre langue et au cœur même de la science, parce que la science me permet de penser que la pierre tombera.
C'est-à-dire qu'on est déjà à l'orée de la formulation d'une hypothèse. On s'abstrait de l'immédiateté et du choc du réel qui nous en sert pour s'en extraire. C'est ça que vous voulez dire?
Oui, bien sûr, parce que ce futur, mais tout de même, je répète, il n'est pas du tout symétrique du passé. Le passé, je le connais plus ou moins, quelquefois très bien. C'est mon propre passé, je le connais quand même assez bien, j'ai de la mémoire. Je n'ai aucune mémoire du futur, bien sûr, c'est tout à fait autre chose. Je répète, aucune symétrie. On voit quelquefois un petit peu le monde avant et le monde après comme étant symétriques. Ils ne le sont pas du tout. Et tandis que là, tout d'un coup, la science me permet d'envisager le futur avec une grande, grande certitude. Je ne peux pas affirmer que la pierre tombera demain totalement à 100%, mais j'en suis quand même totalement sûr. Là, j'ai une certitude qui est d'ordre scientifique sur le futur.
Est-ce que dans le lien entre science et langage, ces petits mots qu'on appelle maintenant les mots outils, les mots d'articulation, ceux qui soulignent les liens de causalité ou leur absence, ne sont pas aussi un basculement considérable?
Considérable, absolument, parce que nous allons le dire tout de suite. D'ailleurs, la science va m'aider, parce qu'elle n'est pas la seule. Il ne faut pas du tout qu'il y ait là une impression d'impérialisme de la science sur le langage, parce que, évidemment, que l'histoire, la philosophie, etc., vont aussi contribuer immensément à permettre une phrase qui est logique. Mais la science y participe pour beaucoup. Grâce, en effet, vous avez raison, à l'utilisation, par exemple, de ces connecteurs, parce que, étant donné que, donc, sont quand même des mots qu'on aurait sans doute pu trouver sans la science. Je répète, la science n'est pas indispensable, mais elle est extraordinairement utile pour comprendre la constitution de la phrase. Notons d'abord que dans ces phrases que j'appelais tout à l'heure les phrases de science, la pierre tombe, ces phrases vont se préciser au cours des millénaires. La pierre tombe. Bon, ça c'est une phrase qui est sûre. Mais on va avoir tendance, comme je disais tout à l'heure, l'arbre il est grand, il est plus grand, on va avoir tendance à la préciser, cette phrase, la pierre tombe. Alors on va dire, par exemple, elle tombe vite, on va utiliser des adverbes probablement, elle tombe vite. Et puis, on va dire peut-être, utilisant un mot, un adverbe qui a un pied dans le langage et un pied dans la science, elle tombe verticalement. La verticale est une notion de géométrie. Elle tombe verticalement. Il viendra un jour, mais ça c'est justement, ça s'appelle Galilée, c'est un grand tournant, hein. Il viendra un jour où je ne dirais pas seulement elle tombe vite, parce que j'ai l'impression qu'elle tombe vite, mais je dirais elle tombe de plus en plus vite. Vous voyez? Donc ces fameuses phrases de science vont se polir et se remplir de sens au cours du temps, pour aboutir finalement à des phrases infiniment précises qui sont la science actuelle, bien sûr. Mais pour revenir à votre question, notamment sur les connecteurs, je crois que c'est extrêmement important de voir que la science va nous aider à construire des phrases qui ont un sens et qui ont une logique interne. Et là, c'est ce que nous appelons maintenant, par exemple, il n'y a pas que ça, mais le principe de causalité. Dans une phrase, il faut que la cause précède l'effet. Si je prends par exemple deux petits morceaux de phrase qui pourraient être le thermomètre que j'ai sous les yeux, là, le thermomètre est haut, enfin il y a la partie visible, le rouge du thermomètre est haut, et puis ça c'est un élément d'une phrase, et puis une autre c'est il fait chaud aujourd'hui. Je vois bien qu'il y a deux façons de joindre ces deux morceaux de phrase. Il y en a une qui est totalement illogique, qui serait de dire je vais les joindre par un parce que, hein, c'est un connecteur. Il serait tout à fait illogique de dire il fait chaud parce que le thermomètre est haut. Et bien sûr, il faut dire le thermomètre est haut parce qu'il fait chaud. Voilà le genre de construction de la phrase. Et si je le dis, c'est qu'en visitant beaucoup d'écoles, je vois des enfants qui se trompent tout à fait sur ce genre de construction de la phrase. Vous voyez? Et il n'est pas inutile de penser, je crois, que faire de la science à l'école les aide à mieux construire les phrases. Parce qu'ils se rendent compte, dans l'exemple que je viens de dire, ils se rendent bien compte que c'est parce qu'il fait chaud que le thermomètre est élevé, et que ce n'est pas parce que le thermomètre est élevé qu'il fait chaud.
Vous avez raison, vu comme ça, les phrases ressemblent à non pas à des équations, mais à de petites formules. Toutefois, au-delà de tout cela, il y a aussi probablement un mot qui est probablement au cœur de la quête de savoir de l'humanité et donc de la science, c'est celui de pourquoi. Car on est resté dans la description, le constat, la volonté de mettre en ordre ce qui peut nous entourer, ce que l'on voit. À quel moment peut-on dater ou expliquer ce saut dans une autre dimension qu'est le pourquoi?
Oui, Vous avez raison, le pourquoi est un mot essentiel de la science, il y en a un autre qui est le comment. N'est-ce pas ? Par exemple, je reste sur cet exemple de la pierre, comment la pierre tombe-t-elle ? J'ai donné déjà la réponse tout à l'heure, rapidement, elle tombe de plus en plus vite. Comment tombe-t-elle ? On pourrait aller évidemment aller beaucoup plus loin dans la description du comment. Et puis alors, vient le pourquoi. Le comment, c'est évidemment la raison d'être de la science, et elle s'en tire pas mal, la science. Elle s'en tire même admirablement. Quand on pense actuellement aux réponses qu'elle donne sur le comment du fonctionnement disons, de la nature, ou du corps humain, ou de la vie, elle est prodigieuse, la science, de ce point de vue-là. Elle a beaucoup plus de difficultés avec le pourquoi. Le pourquoi est quand même infiniment, on dit souvent le comment et le pourquoi, mais c'est à nouveau, c'est un peu comme tout à l'heure, le passé et le futur, c'est pas la même chose. Le comment dépend de ma faculté de voir à tous les sens du mot voir, voir avec mes yeux, voir avec mes instruments et voir avec mon intelligence. Mais le pourquoi ne fait plus appel à des instruments ni à mes sens. Le pourquoi fait appel à mes intuitions et à mes hypothèses. Donc nous sommes dans un champ assez différent. Comment la pierre tombe-t-elle, je viens de le dire, mais pourquoi tombe-t-elle ? Alors ça a été évidemment une immense question depuis toujours. Et il faut attendre. Il faut attendre Newton, au fond. Vous voyez, il faut attendre Newton pour avoir une première réponse qui sera encore, elle, génératrice de nouveau. Pourquoi ? Newton va répondre, en gros, la pierre tombe parce que, le pourquoi, attend un parce que, la pierre tombe parce que elle est soumise à une force qui la tire vers la Terre. Bon. Alors ça va être très bien pendant quelques siècles, jusqu'à ce que Einstein dise non. Oui, bien sûr, on peut dire ça, mais on peut le dire autrement. La pierre tombe parce qu'elle est dans un champ de gravité, etc. Et puis sans doute, il y aura un autre Newton, un autre Einstein, qui va encore dans un siècle, dans un an, dans un siècle, dans 10 siècles, transformer cette réponse au pourquoi. Donc le pourquoi, je crois, là j'énonce une hypothèse personnelle, hein, on a le droit d'en avoir une autre, je pense que le pourquoi n'aura pas de réponse ultime. Il est probable que l'homme se posera éternellement le pourquoi en le raffinant merveilleusement, mais en n'ayant sans doute jamais, en ne mettant jamais le mot fin au film.
On peut presque le souhaiter, non ?
Et je crois qu'on peut le souhaiter, parce que, là aussi vous avez totalement raison de le souhaiter, parce que un monde où nous aurions la réponse finale serait un monde où il n'y aurait plus qu'à se coucher, attendre la mort, il n'y aurait plus de culture. La culture, c'est justement ce qui nous pousse à aller plus loin, et alors il n'y aurait plus à aller plus loin, c'est effrayant. D'une certaine façon, c'est abominable. Bon, mais enfin, nous n'en sommes pas du tout là. Nous sommes pas du tout là.
Et oui, quand on découvre la fin des choses, ça veut dire que c'est la fin.
C'est la fin. C'est la fin en soi. Alors voilà, je crois que la science sera merveilleusement toujours cette succession de réponses au comment, réponses merveilleusement sophistiquées actuellement, et puis de pourquoi qui appellent d'autres pourquoi.
Nous avons évoqué, en jouant sur le mot fin, quelque chose qui ressemble au temps et à l'écoulement du temps. Il y a un passage du livre où on découvre que là, pour le coup, la science a avancé plus vite que le langage, puisque nous utilisons toujours les mêmes mots, dites-vous, que les grands anciens pour parler du temps, alors que les scientifiques, eux, sont dotés d'outils plus performants et qui permettent de le cerner de façon plus juste. Est-ce que dans cette avancée incroyable de la science dans ces derniers siècles ne se trouve peut-être pas l'origine de cette bifurcation entre ces deux types de langage, peut-être le langage littéraire et le langage scientifique?
Alors, j'annonçais tout à l'heure en effet une bifurcation, je n'ai pas utilisé ce mot, mais ça, c'était ça l'idée. Je disais que la science, c'était l'accumulation de phrases miraculeusement bien vu, parce que c'est souvent par le voir qu'on décrit la nature, et de phrases qui touchent à la vérité. Bon. Mais la science actuelle, il faut être honnête, n'est plus tout à fait cela. En tout cas, elle ne l'est plus toujours. Il y a des domaines de la science qui sont toujours énoncés par des phrases. Et je pense par exemple à l'immense domaine de l'évolution. On peut aller assez loin dans une pédagogie de l'évolution, au sens Lamarck, Darwin, sans utiliser autre chose que des phrases. n'est-ce pas ? On peut faire un cours, je crois, assez poussé sur l'évolution. Donc il y a des domaines de la science qui peuvent continuer à être énoncés par des phrases. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a eu une bifurcation. Cette bifurcation s'appelle Galilée. Galilée est pratiquement le premier, on n'est jamais tout à fait le premier, mais enfin, on peut, pour simplifier les choses, dire que Galilée est quand même celui qui a compris que on ne pouvait pas éternellement se contenter de dire la pierre tombe de plus en plus vite, ah, mais comment, et il a compris le premier, je crois, que le plus en plus vite en question pouvait se décrire par une équation mathématique. Qui est que tout simplement la hauteur de chute, alors je vais l'appeler H ici, la hauteur de chute, dépend du temps dont vous venez de parler, que je vais appeler T, comme le carré du temps. C'est-à-dire que la hauteur de chute varie comme le temps au carré. C'est-à-dire que si le temps de chute est deux fois plus grand, la hauteur de chute est deux fois deux, quatre fois plus grande. Si le temps est trois fois plus grand, la hauteur de chute sera neuf fois plus grande, etc. Donc Galilée est le premier à faire cette observation, qui est une observation quantitative, qui nécessite un décamètre, enfin une mesure de longueur, et un chronomètre, n'est-ce pas ? Il y a la hauteur de chute. Galilée est le premier à avoir compris qu'au fond, les phénomènes de la nature, comme la chute d'une pierre, pouvaient être mis en équation. Alors ça, c'est un mot qui fait peur, mais enfin, on avouera, on sera d'accord, je pense, pour penser que H égale T au carré n'est pas une équation trop difficile, mais la bifurcation est prise. Voilà que Galilée, on connaît la phrase très célèbre de Galilée qui nous dit « La nature est un grand livre écrit dans le langage de la géométrie ». Il dit géométrie, nous dirions mathématiques maintenant. Donc voilà, là il y a une bifurcation et la science ne va plus quitter. Il y a une voie qui voit, disons, d'un côté et de l'autre, à droite et à gauche. Il y a une voie qui va continuer à être en phrase, c'est vrai. On apprend quand même beaucoup de phrases dans un cours de science. Mais d'un autre côté, ça va être des équations et des équations de plus en plus difficiles. Et là, il y a un nouveau langage qui est le langage mathématique qui a la vertu d'être un langage universel. On serait quand même étonné que l'univers doive être décrit en chinois, en français, en anglais, comme si l'univers dépendait de la nationalité de ceux qui l'observent. Alors voilà, il y a une science universelle.
Oui, d'autant que on aurait tendance à l'oublier à force de définir le langage comme une façon, ce qu'il est, d'appréhender le monde, mais il est aussi dans le même temps une façon de lui donner forme, de le modeler. C'est bien cela ?
Oui, on lui donne une forme qu'il n'a peut-être pas, c'est-à-dire que nous, modeler est un mot qui est près de modèle, et au fond ce que nous faisons à longueur de journée en science, c'est surtout de fournir des modèles de la nature. La nature, qu'est-ce qu'elle est, l'univers, ou disons la nature, qu'est-ce qu'elle est c'est intéressant ce mot de nature d'ailleurs. Il évoque le futur, puisque la nature, c'est le urus, le participe futur de nasci, de naître. Donc la nature n'est pas tellement ce que je regarde ici, un arbre, un lac, une montagne, etc. C'est ce qui sera, c'est ce qui va naître. Donc il y a là quelque chose qui est assez mystérieux au fond. Dans le seul mot de nature, nous avons le mystère de ce qui est l'évolution de la nature. Bon, ça c'est une parenthèse, mais ça déjà décrit que nous ne pouvons pas décrire une nature en tant que telle, je ne le crois pas en tout cas. Nous ne pouvons que la modéliser, c'est le mot modèle, c'est-à-dire soit avoir des phrases. Si une phrase, je répète, la pierre tombe de plus en plus vite, c'est une phrase qui n'est pas la pierre, qui n'est pas sa chute. C'est une phrase qui est une image de ce qui se passe dans la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et de la même façon, H égale T au carré, l'équation qui décrit la chute, n'est qu'un modèle, approché d'ailleurs sans doute, parce qu'il y a des tas de raisons pour que cette équation ne soit que approchée, etc., etc. Donc nous voyons bien que la nature, nous ne la connaissons pas véritablement, nous ne connaissons d'elle que ce que nous en voyons par nos sens, c'est-à-dire en fait par notre intelligence. Donc elle passe, elle est filtrée par notre intelligence et par nos modèles scientifiques. Donc ça nous laisse un peu quoi devant ce qu'elle est réellement.
Pensez-vous qu'après cette, je ne sais plus le terme que vous vouliez utiliser, bifurcation ou changement de cap entre ces deux formes de langage, qu'il est possible. Et c'est peut-être un trait d'ailleurs assez français que de vouloir autant les opposer. Moi qui suis d'origine étrangère, j'ai pu constater que c'était moins le cas dans d'autres pays que j'ai traversés. Pensez-vous qu'il soit possible de prendre des initiatives pour les réconcilier et faire en sorte qu'elles marchent à nouveau de concert, non seulement à l'école, mais aussi dans l'ensemble de la vie et de la représentation qu'on peut se faire du monde et dans nos pratiques collectives?
Alors, évidemment, je le crois tout à fait. Et pour prendre dans l'ordre successif d'abord les enfants, puisque c'est par là que ça commence, je le crois tout à fait. Alors là, je suis absolument certain qu'aux enfants, et quand je dis enfants, nous avons des actions dans les écoles maternelles. On peut faire de l'excellente science à l'école maternelle avec des enfants qui savent tout juste parler et naturellement pas écrire. Ça ne va pas très loin comme conception, mais on peut évidemment déjà commencer à faire de la science. Beaucoup mieux déjà avec des enfants qui sont à l'école primaire. Et là, sans doute ne va-t-on faire qu'une science qui est énoncée par des phrases, évidemment. Mais les enfants vont faire des expériences qui vont leur susciter leur curiosité, probablement leur initiative, leur notion, leur conception d'une vérité. Vous voyez, les enfants, nos enfants, du moins dans nos pays, vivent dans un monde où règne un relativisme qui va trop loin, je crois, qui est de bon aloi. C'est mieux d'avoir une notion relative des choses que d'avoir des dogmes tout faits. Mais enfin, ça va trop loin. On entend ces phrases, tout est relatif, à chacun sa vérité. Non.
Oui, surtout ça d'ailleurs.
Non, pas à chacun sa vérité, n'est-ce pas? Si je lâche une pierre, elle ne remonte pas vers le haut. Donc l'enfant apprend comme ça qu'il y a des éléments de vérité, des éléments durs de vérité dans le monde. Donc, et ceci avant la bifurcation, parce qu'ils ne vont pas, évidemment, on ne va pas faire une science avec des mathématiques à l'école primaire. On va quand même faire des liens avec les mathématiques. On va leur montrer que la multiplication est importante pour voir la surface d'un champ, etc. Et puis alors, quand l'enfant devient un adulte, eh bien là, votre question est entière. C'est-à-dire que la bifurcation, il faut bien en tenir compte. Les enfants, et quand ils seront même au lycée, ils vont se heurter à des équations. Et c'est là que va se faire ce clivage néfaste dont vous avez parlé dès le début entre ceux qui se disent ou qui se croient littéraires et ceux qui se croient scientifiques. C'est là évidemment que peuvent se naître des méfiances ou même quelquefois ça va plus que ça,
des défiances.
Défiances plutôt vis-à-vis de la science de la part de certains qui n'aiment pas les mathématiques. Mais ça, c'est difficile d'aller la contre, sauf à ce que chacun d'entre nous sache que ce langage mathématique est un langage un peu nécessaire, mais qui n'est pas utile, qui n'est pas complètement nécessaire pour ceux qui ne sont pas scientifiques, pour s'ouvrir à la science. Il y a de merveilleux livres de appelons ça vulgarisation, mais qui présentent... Je suis étonné quand même, un petit peu étonné de ce que tant de nos concitoyens ne s'intéressent pas tellement, de nos compatriotes, pardon, ne s'intéressent pas tellement à ce que c'est que l'univers, par exemple, ces grandes découvertes récentes, je pense à elles, ça s'exprime en phrases, par exemple le fait que l'expansion de l'univers, c'est une chose prodigieue, on a pensé pendant, jusqu'aux années 20, l'humanité entière a pensé que l'univers était fixe, c'était une espèce de grosse boule fixe. Et puis voilà que cet abbé Lemaître, belge, suivi après par Hubble, ces deux hommes, montre que l'univers s'étend. Moi, je trouve ça extraordinaire. On peut le dire et on peut l'expliquer un peu mieux que je ne le fais ici, mais sans qu'on ait de formation mathématique. C'est quand même prodigieux.
La preuve en est que nous recevions, il y a moins de 15 jours, Jean d'Ormesson dans ses studios et qu'il a consacré à ce phénomène et aux abîmes métaphysiques dans lesquels ça l'a entraîné un livre entier dans lequel il n'y a pas une formule mathématique.
Absolument, absolument. Et ça, je l'admire beaucoup pour ça. Et ça prouve simplement qu'il est curieux. Qu'il a cette curiosité qui est à la racine même de la culture. Donc je suis inversement un petit peu triste de voir que pas mal de nos compatriotes, au fond, ne sont pas tellement pressés de savoir si l'univers s'étend ou ne s'étend pas. Les nouvelles de ce genre, on a découvert récemment que non seulement il s'étend, mais qu'il s'étend de plus en plus vite. C'est à nouveau une immense découverte. Elle a fait l'objet de petits articles en page 5 de nos journaux, alors que la page 1 était dédiée à la dernière phrase d'un de nos hommes politiques, une phrase qu'on aurait oubliée le lendemain. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu triste là, de voir le désintérêt pour une science qui n'a pas du tout besoin d'être mathématisée, mais qui peut être merveilleusement bien vulgarisée par des hommes de science habiles à le faire.
Cela dit, pour relativiser un petit peu ce que vous dites, n'est-ce pas justement parce que ces questions-là sont d'ordre, au-delà de la science déjà métaphysique, qu'elles ne passionnent pas ? Est-ce que ce n'est pas le vertige qui éloigne les gens de cette affaire-là ? Moi, ce que j'ai senti lorsque cette sonde s'est posée sur le météorite récemment, c'est qu'il y avait un engouement populaire réel, mais pour la performance technique, pour l'aspect un petit peu épopé, un peu cocardier aussi, au passage. C'était une sonde européenne, on a cessé de le dire, la sonde européenne, on sait plus qu'elle est européenne que ce qu'elle a trouvé. Mais en revanche, lorsqu'on décrit des phénomènes tels que l'expansion de l'univers, qui remettent en cause, qui obligent, comme le faisait Jean Dormesson, à se poser les questions des fins, cela fait peur. Non ?
Oui, mais cela exalte aussi. C'est tout de même une dilatation de notre vision, petite quand même, de nos horizons, qui pourrait fasciner. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose que ce que vous venez de dire de la musique ? La musique nous entraîne dans des univers totalement mystérieux, inconnu, insondable, sur lequel d'ailleurs on a énormément de mal à parler. Donc je ne vois pas qu'il y ait plus de crainte à avoir d'aborder ces questions. J'ai parlé de l'immensité de l'univers, mais on pourrait parler de la vie aussi. On pourrait parler des plantes, comment sont faites les plantes, comment elles poussent, pourquoi elles poussent. Enfin, vous voyez, toutes ces questions du monde qui nous entoure, alors beaucoup plus proche de nous, qu'est la nature au sens banal du mot, eh bien, je ne vois pas qu'il y ait un grand, grand intérêt. Je pense à la presse en particulier, à la presse au sens large du mot, les médias, en parlent extrêmement peu. Il y a très, très peu. Il y a eu des grands journaux français qui avaient même une page de science qui a disparu, puis qui est réapparue. Et d'ailleurs, quand on dit science dans un journal, c'est presque toujours la médecine, parce que c'est ce qui nous intéresse. On a envie de savoir si on pourra guérir bientôt telle maladie ou telle autre. C'est ça qui intéresse. Et moi, je trouve ça un peu terriblement limitatif. Et je répète, je ne vois pas plus d'immensité insondable dans l'univers de la science que, je répète, dans l'univers de la littérature. La littérature est un monde immense qui
subit le même phénomène.
Oui, c'est vrai.
De réduction au nombril.
Oui, oui.
De la même façon, comparer le roman du 19e et le roman d'aujourd'hui, je ne veux pas faire de généralité, mais ce phénomène existe, en tout cas dans les grands tirages. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de grands romanciers aujourd'hui, bien au contraire. Mais dans le flot des productions,
c'est vrai.
Une sorte d'intimisme qui prend le dessus sur presque tout. On se demande presque si finalement la science et la philosophie ou les grandes questions ne refluent pas de concert, ce qui tendra à démontrer votre thèse, qu'elle marche bien ensemble et qu'elles sont liées, parce qu'elles avancent ensemble, elles refluent ensemble. D'ailleurs, de quand date-t-on, ce serait intéressant de voir, le moment où les grands mathématiciens étaient souvent des philosophes, et les philosophes s'intéressaient aussi aux sciences, ils étaient les deux.
Oui, de toute éternité, dès que l'homme a commencé à penser, votre remarque est juste. Et alors, ça culmine un peu avec Aristote. Donc, je ne sais pas si on peut dire que c'est un scientifique ou un philosophe, évidemment. Et la plupart des philosophes se sont intéressés à la science, la plupart des scientifiques se sont intéressés à la philosophie. Et c'est vrai qu'il y a une tendance que vous énonciez à ramener au fond ces grandes découvertes, pour revenir à elles, à la technique. La sonde en question dont vous parliez, c'est vrai, c'est 500 millions de kilomètres, alors voilà, on pense à ça, c'est extraordinaire. Et ça, ça a eu droit quand même à la première page, sous forme d'un exploit technique extraordinaire. Mais ce qu'on a appris quelques jours plus tard, ou une semaine peut-être, c'est-à-dire les premières mesures, qui sont quand même absolument passionnantes, même si elles sont encore très rudimentaires, très, 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 très simples, qui sont que l'eau qu'on a trouvée là-bas ne semble pas être de même nature, si je peux dire, isotopique que l'eau sur la Terre, qui peut avoir des conséquences importantes sur notre vision de la création de la Terre. Ça a été en septième page des journaux. Et en tout cas, pour revenir sur ce lien d'essence, je répète, entre la science et le langage, je crois que si je m'y suis un peut intéresser, c'est beaucoup en fonction de l'enseignement aux enfants. Et ça, je voudrais y revenir un tout petit peu. Parce que, en général, dans une école primaire, où on voit des professeurs d'école, et j'aimais beaucoup le mot d'instituteur, avec l'institution des enfants au sens de Montaigne, c'était un beau mot. Je regrette qu'on l'ait abandonné. En tout cas, disons ici les instituteurs, les institutrices, qui font en général du magnifique travail. Ils ont la chance d'avoir toutes les matières dans leurs mains, n'est-ce pas? Contrairement au collège, où voilà que les enfants découvrent qu'il y a l'histoire, il y a des couleurs sur l'emploi du temps, l'histoire est en jaune, le français est en vert, etc. Donc ça devient des provinces complètement séparées, des pays séparés avec des frontières, tandis que l'instituteur, l'institutrice ont la chance de tout pouvoir faire ensemble. Eh bien, même là, sciences et langage sont enseignés souvent de façon complètement séparée et un peu antinomique. C'est là que je crois que si nos enseignants avaient bien conscience de ce que ces deux grandes aventures de l'esprit étaient en fait totalement liées de structure, de nature et de naissance, je crois que ça serait beaucoup plus facile à enseigner. Et je crois que si on infusait toujours du langage dans la science, toujours, et inversement, si on infusait un petit peu de science dans le langage, encore une fois, des principes de causalité par exemple, eh bien je crois que ça aiderait beaucoup les enfants à s'y retrouver mieux dans les deux, et dans la langue et dans la science.
Vous citez d'ailleurs une expérience assez intéressante où on constate des progrès mesurables, je n'ose pas dire fulgurants, mais mesurables et réels dans la capacité d'expression après avoir mené une série d'expériences scientifiques chez les enfants.
Oui, curieusement, un des exemples que je donne, qui est peut-être le plus beau que j'ai rencontré, j'en ai rencontré beaucoup d'autres, de très belles leçons faites dans des écoles, eh bien, un des plus beaux exemples, je l'ai trouvé au Togo, dans une école totalement francophone, dans un village perdu du fin fond du Togo, dans une école très pauvre, si pauvre qu'il n'y avait même pas l'électricité. Il y avait quand même des petites tables très modestes. Eh bien, je décris dans le livre, je ne vais pas le faire ici, bien sûr, une leçon prodigieuse, où je ne pouvais pas savoir à aucun moment de la leçon, qui la leçon a duré une heure ou 50 minutes, enfin, si on enseignait le français ou si on enseignait la science. Il y avait une histoire de dépression dans une bouteille, enfin, c'était magnifique. Et ces enfants d'ailleurs parlaient admirablement français, je les voyais écrire, ils ne faisaient aucune faute de participe, pratiquement aucune faute d'orthographe, mais le maître était à chaque instant de la leçon de science, c'était quand même une leçon de science, à chaque instant il les tirait vers le français. La richesse du vocabulaire, des mots nouveaux, des phrases un peu mal construites quand même par ces enfants. Ces enfants avaient quand même, c'était des petits Togolais de 10 ans, vous voyez quand même. Et bien, ils parlaient français très bien, mais ils faisaient des fautes un petit peu du genre de celles qu'on disait tout à l'heure, des fautes de construction de la phrase. Ils les redressaient immédiatement et il y avait à la fin du cours, sur certaines phrases, des progrès évidents. En français, je veux dire.
À travers cet exemple, comme à travers d'autres que vous citez dans votre livre, que j'incite nos auditeurs à lire et à consulter, et à offrir d'ailleurs aux plus jeunes et aux instituteurs de leurs connaissances, d'autres exemples qui tendent à démontrer que finalement, pour revenir à l'origine, ce qui pousse l'homme au départ à utiliser le langage et ensuite à poursuivre cette quête par la science, c'est peut-être simplement le désir de savoir, la curiosité. Est-ce que finalement la clé n'est pas là, au-delà même d'une discipline ou de l'autre? Dès lors que la curiosité, l'envie de connaître, de découvrir, d'aller plus loin, de se poser les questions du comment et du pourquoi sont là, est-ce que ça ne suffirait pas à gagner la partie?
Je pense là aussi que c'est un mot essentiel. Qui ne court pas les rues, la curiosité. Un jour, dans une table ronde, j'étais amené à dire un sautement, enfin du moins sans avoir beaucoup réfléchi, que les enfants sont très curieux parce qu'ils posaient cette question et qu'il faut encourager cette curiosité. Et puis deux ou trois chaises à côté de moi, dans cette table ronde, il y avait une dame que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Et quand son tour est venu de parler, elle a dit très gentiment, monsieur, s'adressant à moi dans la table ronde, monsieur, vous disiez tout à l'heure, elle était psychologue. Monsieur, vous disiez tout à l'heure que les enfants sont curieux. Permettez-moi ici de dire que ce n'est pas toujours vrai. Et en fait, elle voulait dire que les enfants sont souvent pas du tout curieux et qu'on se laisse, on se laisse attraper par les rafales de pourquoi qu'ils posent. Et alors on dit, ah, ils sont très curieux parce qu'ils posent des pourquoi. Alors il y a évidemment des enfants très très curieux. Mais il y en a beaucoup qui posent ces questions, c'est pourquoi leurs parents, par exemple, pour s'amuser, pour voir jusqu'où les parents vont répondre. Et puis il y a un moment où les parents s'effondreront, diront, bah, je ne sais pas. Donc le pourquoi des enfants n'est pas forcément un signe de curiosité. Alors, je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants d'abord, ou les stimuler, ou les encourager, c'est à être curieux. Curieux de tout. Curieux de ce qu'ils sont eux-mêmes, la curiosité de soi-même, la curiosité évidemment des autres, et puis la curiosité du monde qui les entoure, de la vie, de la vie, du monde vivant, du monde inerte. Et je crois que si on arrivait à faire que les enfants sortent de l'école primaire plus curieux qu'ils n'y sont entrés, on n'aurait pas perdu notre temps.
Merci Yves Carré, je pense que ça fait une excellente conclusion. Et pour terminer, j'incite quand même pour poursuivre, faire preuve de curiosité, poursuivre cette réflexion, nos éditeurs à se reporter à ce très bel ouvrage, Langue et science, aux éditions Plon. C'est donc signé par Yves Carré et Alain Bentolila. Bien entendu, vous retrouverez toutes les références de ce livre sur notre site internet. Merci de votre fidélité. Merci Yves Carré pour cette incitation à aller toujours plus loin dans la connaissance et la curiosité.
Merci beaucoup.